Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Chaque jour, vous avez la parole dans le JDA pour débattre des sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, mardi, nous revenons sur l'attaque de Solan au Burkina Faso. Les hommes armés ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi la ville de Solan, faisant plus de 160 morts, dont des femmes et des enfants. Le gouvernement burkinabé a décrété 3 jours de deuil national. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle doit être la réponse des autorités burkinabé et comment éviter que ce genre d'attaque ne se reproduise? Pour participer, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp au 33 7 66 19 77 69, 33 7 66 19 77 69. Mais d'abord, nous ouvrons comme chaque jour cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour JDA, bonjour Stéphanie Hartmann, c'est Patrick, je suis congolais d'origine. J'appelle parce que j'ai suivi le débat de ce jour concernant le projet de loi des Noël Chani. Il y a eu beaucoup d'informations pas correctes qui ont été annoncées par certains auditeurs. Donc déjà, à la base, Noël Chani n'est pas du Katanga, il n'est pas député national. Donc, c'est un ancien candidat aux élections présidentielles. Et puis, sa proposition de loi, il est vrai que Katumbi n'est pas notre victime, mais je ne pense pas qu'il soit la personne visée. Parce qu'en réalité, il n'y aurait pas de personne visée, parce que demander que les deux parents soient congolais d'origine, je ne vois pas en quoi ça serait un problème des Katumbi. En plus, c'est une proposition de loi qui peut être débattue. Moi, je pense que ça doit être étudié, ça doit être débattu au Parlement pour que les matières grises puissent mettre beaucoup d'énergie à travailler ensemble pour pouvoir trouver une monture qui pourra plaire à la majorité de la population. On ne peut pas interdire à un intellectuel de réfléchir à haute voix. On ne peut pas interdire à M. Chani de réfléchir à haute voix, tout simplement parce que tel ou tel serait visé. Sinon, finalement, par exemple, en France, pour être candidat à président de la République, il faut avoir au moins 18 ans. Au Congo, il faut avoir plus de 30 ans, par exemple.
Oui, cher ami du JDR, Madame Hartmann, bonjour. Je me permets d'intervenir, c'est par rapport à l'émission de ce jour qui concerne la nouvelle loi qui est traitée à l'Assemblée par rapport à la présidentielle au Congo. Je pense que l'ivoirité nous a servi de leçon, parce que le problème, nous risquons de tomber dans le même cas. Et puis, je pense que ça, c'est un faux débat. La plupart des gens qui sont au gouvernement, ils ont tous des doubles nationalités et tout. Et puis, il ne faut pas qu'on se voile la face, c'est pour écarter d'autres candidats. Je pense que c'est pas bon. Je pense que voici ma modeste contribution. Hein. Je pense que les choses sont claires. Ce n'est pas la priorité de toutes les personnes. Il y a d'autres priorités au Congo, comme je l'avais évoqué dernièrement, les problèmes de l'eau, les problèmes de l'électricité avec les délestages et tout. Je pense qu'il faut beaucoup plus s'attaquer à ces choses-là que ça. L'ivoirité, je pense que ça nous a servi de leçon. Tout ça, c'est un faux débat. Puis, ce n'est pas une priorité. Bien des choses à tout le monde. Dieu bénisse qu'à son nom, que Dieu bénisse tout le monde. Ciao, ciao, à très bientôt.
Oui, bonjour. Je m'appelle Evelyne. J'appelle de Paris. Et je voulais intervenir par rapport à votre émission sur la double nationalité et le fait que un potentiel président au Congo Kinshasa soit de père et de mère congolais. Et je suis complètement d'accord avec cette proposition, et je rebondis même sur les propos qu'a tenu le dernier auditeur en précisant qu'effectivement aux États-Unis, pour être président, il faut être né américain, et ce n'est pas pour ça que les gens qui ont la nationalité ne participent pas de cœur avec le pays, mais ils savent, parce que c'est mentionné, mais que quand on veut être président, on veut briguer la présidence, bah, il faut être de nationalité américaine, parce qu'on l'a aussi le pays dans le cœur quand on est né américain. Donc je ne vois pas pourquoi il y a une polémique de ce type pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, au revoir.
Amis auditeurs d'Africa Radio, je vous salue. J'entends de plus en plus les responsables du FPIGOR dit que Laurent Gbagbo est la cheville ouvrière de la réconciliation. Mais moi, je m'inscris en faux contre ce genre d'argumentation. Parce que depuis 2010, le président Ouattara a tendu la main à l'opposition. Mais cette opposition n'a jamais voulu prendre cette main tendue. Mais ça sera également le cas, même si Laurent Gbagbo tend sa main aux victimes, mais elles ne prendront pas cette main tendue de l'ancien bagnard de la haie. Donc la réconciliation est une affaire de cœur, c'est une affaire de comportement. Ce n'est pas une personne qui va dire que oui, on est réconcilié et voilà, on est réconcilié. Non, ce n'est pas ça. C'est une affaire de comportement, la réconciliation. Donc Laurent Gbagbo ne sera jamais la cheville ouvrière de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Idriss, bonne journée.
Oui, bonjour à tous. Je viens de voir un communiqué de la Chambre des Rois de je ne sais trop quoi de Côte d'Ivoire disant que le retour du président Gbagbo doit se faire en douceur et sans bruit. Mais j'ai presque envie de leur dire à ces rois-là que les gores, les membres de l'opposition sont des gens civilisés déjà pour commencer. Et je vais rappeler à ces rois-là qui parlent, qui ont une bouche maintenant pour parler. Lorsque Dramane Ouattara a envoyé ces microbes aller décapiter le jeune Toussaint Kofi, on ne les a pas entendus parler. Lorsque la Côte d'Ivoire aujourd'hui connaît le pire délestage de son histoire, eh bien, on ne les entend pas parler. Lorsque des jeunes sont maintenus en prison depuis plus de 10 ans et leur crime était juste d'avoir mis un t-shirt à l'effigie du président Laurent Gbagbo, on ne les entend pas parler. Donc, de quoi ils nous parlent? Ils nous parlent de l'accueil du président Gbagbo? Quoi que vous fassiez, chers amis, chers rois, ou toute personne opposée au retour du président Laurent Gbagbo, le président, son excellence Laurent Gbagbo, sera accueilli en grand pompe.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages et effectivement à toutes nos excuses pour les mauvaises informations que nous avons données hier concernant Noël Tchiani. En effet, hein, il est plutôt du Kassai et il n'est pas député. Voilà, il a remis sa proposition de loi à des députés. Merci à Patrick pour la précision. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, quelle réponse après l'attaque de Solan au Burkina Faso? Le chef du gouvernement burkinabé, Christophe Dabiré, s'est rendu hier à Séba, où il a rencontré des rescapés, des proches des victimes de l'attaque djihadiste survenue dans la nuit de vendredi à samedi. Christophe Dabiré affirme que le Burkina Faso sera capable d'apporter une réponse appropriée. Alors, quelle doit être cette réponse? 33 1 55 07 58 00. Et on commence avec Abdourahmane depuis le Sénégal. Abdourahmane, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, bonjour à tous.
Alors, on vous entend un peu loin, je vais juste un peu monter le son. Abdourahmane, vous avez écrit sur Facebook, et vous avez écrit, vous me demandez comment une telle horaire peut-elle se produire durant une bonne partie de la nuit sans que les forces de défense burkinabé puissent intervenir pour sauver ces gens. Effectivement, il y avait un contingent apparemment, plutôt Séba, une vingtaine de kilomètres de là, mais il n'est arrivé que plusieurs heures après l'attaque.
Merci madame, permettez-moi d'abord de présenter mes sincères condoléances au peuple burkinabé. Moi je me pose la question, pourquoi un tel scénario peut se passer durant toute la nuit sans que les forces de défense et de sécurité viennent au secours de cette population. Vous savez, vous-même, c'est une zone où il y a l'état d'urgence. Et quand il y a l'état d'urgence, tout le monde est soumis d'intercéder juste à l'heure prévue de l'état d'urgence. Maintenant, si au moins si ce n'était pas à l'état d'urgence, peut-être certains vont appréhender ces services pour pouvoir sauver leur vie. Mais l'État doit impérativement déplacer le force d'état-major vers les jeunes ou là où il n'y a pas de sécurité. Parce que pour moi, pour vaincre ces terroristes, il faut forcément qu'on déploie des forces massives pour pouvoir affronter ces mécréants et les mettre hors d'état de nuire. Parce que vraiment, c'est triste ce qui se passe au nord du Burkina sans l'absence de l'État. Parce que vous avez dit que les forces de sécurité se positionnent à une vingtaine de kilomètres. Mais pourquoi arriver à temps s'il n'y a pas des infrastructures routières? Pourquoi arriver à temps s'il n'y a pas de réseaux électriques pour de téléphonie qui permettent au moins à la population de faire des rapports avec les forces de défense de sécurité pour le prévenir à temps? Moi, je pense que Rock doit revoir sa copie pour pouvoir donner un maximum de sécurité à ces paisibles citoyens. Parce que c'est très désastreux. Ouais.
Plus de moyens. Merci beaucoup, Abdourahman. Effectivement, on peut s'interroger sur la difficulté pour l'armée de venir contre-attaquer, en tout cas de repousser ces attaques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdourahman. Bonne journée à Dakar, où il est 11h41. Dans un instant, on écoutera Charles, justement, qui, lui, est à Ouagadougou. Alors, les djihadistes ont d'abord attaqué une base des VDP, ces volontaires pour la défense de la patrie, avant de s'en prendre à l'ensemble de la population, des femmes. On parle d'une vingtaine d'enfants tués, dont le plus jeune aurait 8 mois. Abdel, bonjour. Allô, Abdel ?
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Monsieur Abdel, bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors vous, comme réponse, vous dites qu'il faut que la population s'implique davantage dans la lutte contre le djihadisme. J'évoquais notamment ces VDP. Pour vous, la population n'est pas assez impliquée?
Avant toute chose, je crois que je vais une pensée pour toutes ces victimes qui met vraiment toute l'Afrique dans un deuil. Je crois que oui, je ne peux pas penser que la population s'est vraiment impliquée parce que on est censé se connaître partout où nous sommes dans un pays. Comment au 21e siècle, il y a pu y avoir des gens qui peuvent vivre pour pouvoir venir attaquer et faire des massacres de cette taille? Il faut que ce n'est pas seulement le Burkina, tous les pays limitrophes, tous les pays, c'est une lutte coordonnée qu'on doit faire et chaque citoyen doit s'impliquer dans ça.
J'évoquais les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, qui sont des citoyens, des civils. Ils sont les premières victimes. Au Mali aussi, beaucoup des autorités ont soutenu des milices. Est-ce que finalement, ce ne sont pas ces VDP qui aussi mettent en danger la population, puisqu'on le sait, finalement, ces djihadistes mènent ce genre d'attaque par vengeance? Est-ce que l'implication de la population ne la mettrait pas encore plus davantage en risque,
mais
en danger?
Non, ça ne peut pas mettre en danger, parce que l'implication de la population, c'est la lutte de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils font là, ça va arriver à tout le monde, à d'autres personnes demain. Si les gens sont capables de faire des massacres de cette taille, non mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui doit baisser les bras. Ils doivent aller trouver les dénoncer dans n'importe quel où ils se trouvent. Il faut que les gens s'impliquent. Parce que c'est des individus qui font les choses.
On va demander
et
justement
des gens à leur proximité.
À Charles, alors on va demander à Charles ce qu'il en pense. Charles, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour
à tous les auditeurs.
Vous êtes à Ouaga, justement. J'évoquais cette question des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont de plus en plus la cible des djihadistes. Que pensez-vous des propos d'Abdel?
Moi, permettez-moi de dire que c'est vrai, ce qu'il a dit, il n'a pas tort, mais moi, je vais un peu le contredire. Chacun a sa réalité aussi.
Bien sûr.
Si on va voir depuis l'année, il y a plus de 200 VDP. Qui sont la cible des terroristes. Que chaque fois quand il y a une attaque, c'est eux qu'on attaque. Prenez, ils sont même l'attaque de la fois dernière, c'était eux qu'on a attaqué. Après avoir fini avec eux, ils ont attaqué la population. La population est impliquée maintenant. Si la population n'était pas impliquée, on n'allait pas parler des VDP, on n'allait pas parler des Koligo. Même il y a des groupes à nous qu'on appelle les Tosso aussi. Eux aussi, ils sont impliqués. Il y a eux même, eux aussi, ils perdent aussi
leur tribu.
Ouais. Voilà, eux aussi, ils peuvent aussi les prix forts. Maintenant, le problème ici, madame, il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser. Voilà, on ne peut pas comprendre. Vous savez que dans la région du Nord, il y a le couvre-feu. Le Nord et la région de l'Est, il y a le couvre-feu. Mais et puis ça allait du couvre-feu qu'il y a eu l'attaque. Maintenant, ce qui est grave, à 13 km d'un camp, à 13 km de Seba, c'est-à-dire là-bas, il y a un camp militaire. Mm-hmm. Voilà, de 2h du matin à 5h, l'armée n'a pas pu intervenir. Vous voyez que cela donne des questions.
Alors pourquoi, selon vous, Charles, l'armée n'a pas pu intervenir? Est-ce que c'était difficulté à être informé? Mauvais renseignement? Quelle piste, selon vous?
Bon, moi, je vais dire qu'il y a un problème. Bon, il y a un problème dans le commandement du chef, dans la chaîne du commandement, madame. Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Parce qu'à 13 km, c'est tout près. Même à pied, l'armée pouvait intervenir. Maintenant, notre ministre, il se joue au sapeur-pompier. Moi, ça m'a fait mal quand j'ai vu la télé dire que le bouton, ça veut rien dire. Il paraît, parce que c'est pas vérifié, il paraît même que les terroristes sont venus et avertir la population de quitter la localité, de quitter la localité. Que la prochaine fois, ils vont venir les massacrer. Effectivement, ils sont venus. Mais est-ce que le gouvernement n'a pas entendu ce qu'il avait? La menace des groupes armés. Et puis encore, quand il dit que notre armée, ils sont forts pour neutraliser les opposants, ils sont forts pour mater les élèves, ils sont forts pour mater les fonctionnaires qui sont pour revendiquer leurs droits, mais en matière de renseignement, si les terroristes sont nuls, comment 200 personnes en moto, ils n'ont pas marché en moto, à l'aide de couvre-feu, personne n'a pu les insérer. Vraiment, c'est grave. C'est grave. Et puis quand on veut parler, il dit que vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne savez rien de l'armée. Mais on va aller de couvre-feu. En temps normal, il y a les patrouilles qui doivent...
Beaucoup de Burkinabés disent aussi, donc, il y a des mesures qui sont prises, mais elles ne sont pas appliquées. Vous évoquez notamment le couvre-feu. Effectivement, l'attaque a eu lieu dans la nuit. Or, le couvre-feu au Burkina Faso entre en vigueur à partir de 19h. Heure locale, alors comment ces personnes ont pu-elles circuler librement sans être inquiétées? Ça fait partie des questions. Alors, après cette attaque, merci Charles aussi de votre intervention. Cette attaque, vous l'avez rappelé d'ailleurs, Charles, a été menée par des hommes en deux roues, pour la plupart, en moto. Alors, le lendemain, dès lundi, les deux roues, voire trois roues, ont été interdits dans la région. Alors que pensez-vous de cette mesure? Peut-elle être efficace? On va demander à Christian. Christian, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Christian. Vous êtes favorable à une riposte du gouvernement burkinabé qui doit être beaucoup plus forte pour permettre à la population de vivre dans la sécurité? On a fait un peu l'état des lieux de ce qui n'allait pas. On a évoqué le couvre-feu, on a évoqué d'éventuelles alertes qui n'ont pas été suivies. Que peut faire de plus le gouvernement burkinabé?
Le gouvernement burkinabé doit faire la chasse à l'homme. Il doit investiguer dans les zones où les terroristes sont venus frapper la population. Il ne doit pas rester sur place. Il doit bouger pour sécuriser la population.
Bouger pour sécuriser la population. On entend bien, effectivement, Christian, votre propos. Merci beaucoup. Vous êtes, j'ai pas précisé que vous étiez au Tchad. Il y a la Marane qui dit le massacre de plus de 160 personnes au nord-est du Burkina corrobore la défaillance des forces de défense et des services de sécurité. À quoi sert la pléthore des hommes en uniforme? On va écouter William. William, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, et bonjour Africa Radio, bonjour l'Afrique.
Bonjour William. Vous dites qu'il faut une réponse militaire, mais n'est-ce pas ce que les autorités font depuis plusieurs années maintenant?
Déjà, je vais présenter mes condoléances à tout le peuple burkinabé, parce que là, c'est le deuil de tout un continent. 160 personnes, c'est beaucoup, Stéphanie, qu'on tue des gens comme ça facilement, ces voyous-là, ils quittent là où ils sont jusqu'à faire le chemin, personne ne leur contrecarre en route, ils tuent, ils repartent. Donc la solution, Stéphanie, doit être militaire. Moi, je suis en colère, pourquoi? Parce que partout dans le Sahel, on compte tout le temps les civils qui tombent. Et les militaires, c'est un peu rare. Même ceux qui sont là sur les forces étrangères,
C'est de plus en plus, effectivement, les civils sont de plus en plus touchés. Bon, il y a quand même des militaires régulièrement touchés. Hein, je pense au Niger, au Burkina Faso aussi. Hein.
Stéphanie, il faudrait que les dirigeants du Sahel, déjà, parce que c'est le Sahel qui est vraiment beaucoup touché, il faudrait qu'ils prennent le courage de dire, bon, maintenant, nous allons prendre les choses par main. Équiper ces armées-là, Stéphanie. Mettez les vrais professionnels. Parce que moi, je pense qu'il y a la défaillance, c'est quoi? Parce que nous avons des militaires, comme disait Charles, qui sont champions à tabasser les manifestants, à mettre le poison en prison. Mais quand il s'agit maintenant de défendre la partie pour aller maintenant se battre, ils ne sont pas là. En commençant par leur chef et jusqu'au dernier, au dernier gradé. Alors, aujourd'hui, on dit que voilà, que parce qu'il y a les civils qui sont là pour défendre la patrie, et ils deviennent en quelque sorte le danger pour les autres populations.
Sûr,
non, Stéphanie. Eux, ils le font parce qu'ils veulent, effectivement, c'est des volontaires, parce qu'ils veulent défendre le territoire. Mais il faut savoir que les civils ont toujours été les cibles de ces voyous-là, depuis très longtemps. Donc, moi, je pense que ce n'est pas ça la raison. La raison est que si le président Macky Sall nous écoute, il faut qu'il s'arrange de sécuriser les Burkinabés. C'est trop, Stéphanie.
C'est très clair. Bah, j'espère qu'il vous écoute.
Je vais finir par dire, Stéphanie, quelque chose, excusez-moi.
Rapidement.
Parce que moi, j'écoutais beaucoup Feu, et dit, c'est des vues personnelles. Mais je suis convaincu, et il m'avait convaincu en disant que depuis qu'il avait tué Kadhafi, le Sahel est en désordre. C'est la vérité.
Merci beaucoup, William. Il ne faut pas oublier effectivement, il y avait d'autres soucis. Alors, moi, Koulibaly, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Ackerman. Bonjour, tout le militaire.
Koulibaly, on n'a pas beaucoup de chance, mais on n'a pas beaucoup de temps, mais j'étais curieuse de savoir pourquoi vous disiez que c'était un problème de manipulation de la communauté internationale.
Madame Ackerman, qui finance ces terroristes? On ne peut pas se battre avec les diables.
C'est une bonne question.
Qui sont la base pour recoloniser les Africains.
Merci, Koulibaly, de votre intervention. Ma curiosité me perdra. Vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer la discussion, notamment sur le répondeur d'Africa Radio au 33 1 55 07 58 05. Tiens, justement, demain, nous parlerons du Mali. Voilà, que faut-il attendre du nouveau président, le colonel Assimi Goïta. À demain.